soir, en province du Katanga, la situation sécuritaire reste préoccupante dans plusieurs localités des territoires de Kasenga et Pweto suite aux attaques des combattants Mai Mai. Le bilan des opérations déclenchées par la 6e région militaire il y a 2 semaines pour établir l'ordre fait état de plusieurs combattants Mai Mai tués. Comment analyser cette situation? Que faire pour pacifier cette partie du pays? Pour en parler, nous recevons l'honorable Fabien Mutombo Kan-Kato, député national de l'opposition et élu de la ville de Lubumbashi. Il est cadre de l'UDPS. Honorable Mutombo, bonsoir.
Monsieur Alain.
Voilà, ils vont nous rejoindre dans un tout petit moment. Eux, c'est Maître Jean Bouillou, cadre du PPRD et ancien vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, ainsi que Joseph Kongolo, analyste politique. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Nguru Assigna Anselme, ces multiples groupes armés constituent un danger pour notre Congo suite au chômage du peuple. Ils ont vu qu'emboîter le chemin de la guerre en tracassant, pillant, violant et volant les biens de la population serait un moyen facile pour vivre. Je pense que la pacification de l'Est du pays sera une solution pour que la crise dans notre pays cesse. Jean-Pierre Kipili de Lubumbashi au Katanga, pour moi la solution c'est écouter et examiner leurs revendications tout en encadrant nos FRDC sur tous les plans. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La situation sécuritaire reste volatile dans plusieurs localités des territoires de Kasenga et Pweto au Katanga, cela 2 semaines après le début de la traque des Mai Mai par la 6e région militaire. Le bilan fait état de plusieurs combattants Mai Mai tués, notamment sur l'axe Kasomeno-Kilwa et non loin de la localité de Keshobwe dans le territoire de Kasenga. Cette information n'est pas encore confirmée par des sources officielles. Le point avec vous, Colin Djuma-Moussompo.
Selon certaines sources militaires à Kilwa, les affrontements ont commencé la semaine dernière entre les militaires FARDC et les Mai Mai du groupe Kata Katanga sur l'axe Kankumba-Lumpembe à 40 km du chef-lieu du territoire de Kasenga. Le bilan fait état de 13 personnes tuées, parmi lesquelles 12 Mai Mai et un militaire FARDC. Il y aurait aussi des blessés dans le rang des troupes loyales. Sur un autre front, entre Kasomeno et Kilwa, un camion qui transportait les militaires était tombé en panne. Les militaires affirment avoir effectué 15 km à pied. Après leur départ, les Mai Mai ont surgi à cet endroit. Ils auraient pillé le véhicule et emporté tous les effets des passagers. D'autres sources indiquent qu'un élément de FARDC aurait été pris en otage pour une destination inconnue. Pour l'instant, il est difficile de savoir si ces inciviques ont réussi à emporter les armes. Aucune source officielle ne confirme ces informations. D'autres sources sur place à Lubumbashi indiquent que la 6e région militaire a ouvert plusieurs fronts dans plusieurs localités dans le nord Katanga pour contraindre les combattants Mai Mai et autres miliciens. Lubumbashi Bashi, Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
Toujours au Katanga, hier au village de Mandubuila, ce sont des Mai Mai qui ont fait incursion à environ 50 km de Bunkeya. Bilan, 2 morts et quelques maisons détruites. Ces assaillants ont ensuite envoyé un message à Bunkeya indiquant qu'ils se dirigent vers cette cité, ce qui a créé la peur au sein de la population de cette contrée. Conséquence, certains agents de l'État et commerçants ont commencé à rapatrier leurs familles et leurs biens vers Likasi, situé à 75 km de Bunkeya. La situation sécuritaire, je le disais, dans certains coins de la province du Katanga est de plus en plus préoccupante. Des incursions des Mai Mai se multiplient et sont signalées sur différents axes. Mais qui sont ces Mai Mai et quelles sont les principales localités où ils opèrent? Tentative d'explication avec vous, Denise Maéo.
Selon plusieurs sources, tant du côté des chefs coutumiers que des ONG locales, il existe au Katanga 2 grands groupes de Mai Mai. Le premier est celui qui se reconnaît en Kyungu Mutanga Gedeon. Celui-ci avait déjà semé la terreur dans les territoires de Mitwaba, Pweto et Manono entre 2004 et 2006. Après son évasion de la prison de Kasapa Lubumbashi en septembre 2011, il s'est réinstallé dans les territoires de Mitwaba où il s'est réorganisé. Le second groupe, dit Bakatakatanga, entendez, ceux qui veulent couper le Katanga du reste de la République, a pour chef Ntandaimena. Ce dernier vit à cheval entre la Zambie et le Katanga. Il avait déjà été arrêté en 2004 en Zambie et transféré à Kinshasa, puis libéré quelques mois plus tard, selon les sources officielles sur place au Katanga. Ce groupe avait pour bastion le village de Mukanga, à près de 30 km de Mitwaba centre. De ces deux groupes, le plus actif à ce jour est celui d'Entanda Imena, auquel certaines sources attribuent les dernières attaques survenues aux environs de l'aéroport de Lubumbashi. Lubumbashi, Denise Maéo, Radio Okapi.
Merci Denise Maéo. À propos toujours de cette situation sécuritaire au Katanga, le ministre de l'Intérieur s'est dit engagé à renforcer les mesures prises jusqu'à là par les autorités de cette province. Richard Mouyege l'avait dit à l'issue d'une rencontre le lundi 14 janvier dernier avec le ministre provincial de l'Intérieur du Katanga. Il avait souligné par ailleurs que cette situation n'est pas négligée au profit du Nord Kivu. Le ministre Richard Mouyege au micro de Nadine Foulansimba.
D'une manière générale, la situation semble bonne, mais je sais qu'il y a l'axe Pueto et en remontant un peu Mitwaba et vers Manono qui a quelques problèmes d'insécurité causés par la présence des éléments Mai Mai, et cela préoccupe à juste titre le gouvernement central.
Mais nous avons l'impression que votre attention est plus focalisée vers le nord et le sud Kivu, alors qu'au Katanga, ça barde aussi.
Au Katanga, ce sont des mouvements internes. Et l'autorité provinciale a fait des efforts jusque-là, mais elle a son regard tourné depuis un certain temps vers Kinshasa, et nous sommes dans l'obligation de renforcer cet effort. Mais le nord et le sud Kivu, en plus des mouvements de Mai Mai, il y a eu une agression étrangère, ce qui a expliqué que nous ayons organisé plus de missions vers là, mais sans oublier et sans négliger ce qui se passe au Katanga.
Maître Jean Bouillou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cadre du PPRD et ancien vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez la situation qui prévaut dans la province du Katanga?
Oui, d'abord, il faut dire que je vis là-bas. Je vis dans le nord et plus d'une fois, je suis, comme toute la population, victime de ces incursions. Parce que moi, puisque je dois m'occuper des personnes qui sont tout aussi victimes et qui doivent quitter leur village et se réfugier beaucoup plus loin. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une rébellion à proprement parler. Je qualifie ça d'acte de banditisme dans les régions où l'autorité de l'État n'a plus été effective, notamment par manque d'effectivité de l'armée et de la police. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que lorsque il y a eu l'agression contre le pays, c'est-à-dire lorsque le Rwanda et l'Ouganda avaient attaqué le pays pendant toutes ces années où il y a eu des négociations, on a pris en compte ce qu'on appelle les Maïmaï du Kivu et même de la province orientale, et on n'avait pas donné de statut aux Maïmaï du Katanga, c'est-à-dire ceux qui avaient défendu le Katanga pendant la période de guerre, c'est-à-dire, autrement dit, les milices civiles qui s'étaient comportées comme des nationalistes. Alors, à la fin de la guerre, on a vu dans les négociations émerger le groupe de Mai Mai du Kivu et de la province orientale, tandis que ceux du Katanga n'ont pas eu voix au chapitre. Et c'est justement dans tous ces gens qui ont été Mai Mai, qui ont aidé l'armée contre l'agression rwandaise, qui ne se sont pas retrouvés dans les nouvelles institutions à la faveur des Mai Mai du Kivu, ce sont malheureusement ces groupes-là dans lesquels se développe une sorte de nouvelle rébellion contre cette fois-ci l'autorité établie, soit par le fait de vouloir s'affirmer comme des gens qui ont travaillé mais qui n'avaient pas été récompensés, soit encore comme une recherche d'auto-emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je les ai parfois qualifiés de bandits. C'est des gens qui font des incursions pratiquement de survie. Ils attaquent des postes de police, ils prennent les 5 ou 6 armes que les policiers détiennent et fouillent avec. Donc c'est manifestement pour des raisons à la fois de survie, à la fois de n'avoir pas pris en compte des groupes qui auraient dû être pris en compte comme interlocuteurs lorsqu'on a pacifié le pays, et à la fois pour des raisons probablement opportunistes, d'autres gens qui aimeraient les appuyer, que tout cela survient.
Alors, maître Jean Bouillou, on a aussi, il a été également fait mention du fait que ces Maïmaï s'attaquent aux symboles du pouvoir, à la police, aux services de sécurité. Est-ce cela justifierait les arguments que vous venez d'avancer ici?
C'est vrai qu'ils s'attaquent spécialement, ils veulent pas voir les symboles de l'armée ni de la police. Par exemple, lorsque nous faisons des convois, disons, les camions vont de Lubumbashi, Mitwaba, Manono, nous remarquons qu'ils surgissent parfois de brousse pour couper la route, et l'objet, c'est de demander est-ce qu'il y a des militaires dans ces camions. S'il n'y a pas de militaires, ils demandent une sorte de rançon, ils laissent passer. S'il y a des militaires, souvent ils prennent le militaire et tirent sur lui. Alors ils ont subi vers les derniers mois beaucoup de, disons, de contre-attaques en termes de, je sais plus le mot en français, on les a parfois piégés, c'est ça. On les a parfois piégés et ils ont subi quelques pertes non négligeables par l'armée. Et ils ont déménagé un peu la zone Mitwaba pour se réfugier vers Kilwa, Kasenga, et c'est là qu'ils causent de plus en plus des troubles.
Alors, vous dites qu'il ne s'agit pas d'une rébellion à proprement parler, mais qu'il s'agirait d'actes de banditisme, mais il y a des Maïmaï qui se nomment notamment les Bakatakatanga et qui ont des revendications sécessionnistes. Pratiquement, comment vous expliquez ça?
Oui, je crois que les revendications sécessionnistes sont un appui à leur manque d'idéologie. En réalité, ils ne revendiquent pas, ils n'ont pas de revendication politique spécifique. Ils ont un besoin de survie, mais en même temps, pour soutenir leur raison d'être auprès de la population qu'ils côtoient, ils disent qu'ils sont favorables à ce que le Katanga devienne indépendant. Or, ce discours d'un Katanga indépendant est un discours qui a prévalu dans les années 60 lorsque Tshombe a justement proclamé l'indépendance du Katanga. Mais dans la réalité quotidienne, cette indépendance du Katanga n'est pas partagée de la même manière dans les populations. La crise fait que certains sont pour, mais ceux qui ont vécu la sécession et son aversion contre certaines populations du Katanga n'épousent pas l'idée d'une sécession katangaise entière.
Honorable Fabien Mutombe Kankato, vous êtes député national de l'opposition, élu de la ville de Lubumbashi, vous êtes cadre de l'UDPS, vous venez de suivre maître Jean Bouillou. Comment vous expliquez cette situation qui prévaut au Katanga?
Merci. Vous savez, si vous prenez la constitution de la République démocratique du Congo, lorsque le président de la République prête son serment, on vous dit qu'il doit assurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Si nous rentrons en arrière, vous allez voir lors de la conférence de Sun City pendant la transition, on avait donné quelques objectifs, notamment la sécurisation, l'élargissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République, la mise sur pied d'une armée républicaine, la sécurisation des citoyens de la République, et j'en passe. Mais si vous revenez aujourd'hui, vous allez constater que les problèmes ne se posent pas seulement au Katanga. Ces problèmes, il est général. Il y a la constellation des Maïmaï qui écume l'est du pays. Vous avez les Mbororo au niveau de la province orientale. Maintenant, là, vous avez le Katakata, vous avez les Gédéons. Au fait, si vous prenez cette situation a un seul dénominateur commun. C'est l'incapacité de l'État. C'est l'échec de l'État. C'est le leadership que nous avons au niveau de notre pays qui pose problème. Le problème n'est pas conjoncturel, c'est un problème structurel renforcé par les éléments conjoncturels. Vous avez suivi, lorsque nous parlons des Gédéons, on a ressuscité les triangles de la mort, Mitwaba, Manono et Pweto. Ne prenons pas ça à la légère. Nous avons, au début de l'année, si vous prenez en 2012, il y avait 54 000 personnes qui étaient en errance. Et aujourd'hui, nous avons 314 000 personnes au Katanga qui sont en errance. Soit une augmentation de près de 500%. Vous voyez un peu. Donc la situation, elle est grave. La situation, elle est grave si vous descendez sur terrain. Je vous informe que les enfants n'étudient pas dans ces secteurs-là. Il y a des violations sexuelles. Il y a l'absence, disons la période culturelle que nous sommes en train de sauter. Il y a plusieurs brimades. Et vous revenez à tout ça, l'élément capital dans cette histoire, c'est l'évasion spectaculaire de Gédéon. Bien sûr, il y a d'autres éléments, mais l'évasion spectaculaire de Gédéon. On l'a dit au mois de septembre 2011. Comme dans un rêve, pareil à un film hollywoodien, Gédéon, nous apprenons qu'il s'est évadé. Mais lorsque vous analysez la situation des plus près, c'était presque à la veille des élections de 2011. Vous sentez que ça sent le roussi. Ça sent le roussi. C'est comme si les autorités, que ce soit au niveau provincial, au niveau national, à l'instar de ce qui se passe au Rwanda, il y a des complicités à ces niveaux-là.
Il y a Jean-Marie Ziali Roy de l'Université d'Ohio aux États-Unis d'Amérique qui dit « Des pauvres Mai Mai Mukata Katanga qui se battent pour une république du Katanga, voyez-vous vraiment des petits paysans nourrir de telles idéologies? Leurs chefs, comme tant d'autres milices, n'ont-ils pas été arrêtés puis relâchés dans la nature? Dommage pour ceux qui se laissent manipuler par des forces divisionnistes. » C'est ce que vous venez de dire, honorable Fabien Mouton. Donc, si je comprends de votre point de vue, c'est Mai Mai sont serrés, manipulés par des politiques.
Vous savez, à l'est de notre pays, il y a des complicités au niveau des institutions de la République, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, dans pratiquement toutes les institutions. Il y a une forte manipulation venant de l'extérieur et de l'intérieur de notre pays. Et ça, s'agissant de ce qui se passe chez nous au Katanga, c'est de la manipulation pure et simple. Ce que M. Jean-Marie venait de dire, il a pratiquement raison. Gédéon s'évade à un ou deux mois des élections de 2011. Il y a des sous-entendus à ces niveaux-là. Donc moi je peux dire à ces niveaux de débat que ne nous cassons pas la tête. On ne peut pas se cacher derrière un doigt. Ce qui se passe à l'est et ce qui se passe au niveau de la province orientale, c'est la même stratégie au niveau du Katanga. Comment est-ce que quelqu'un peut s'évader en pleine journée? Et laissez-moi vous dire, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on a dégagé les responsabilités? Est-ce qu'on a traduit devant la justice les gens qui ont permis à Gédéon de s'évader? Bref, laissez-moi vous dire qu'à ces niveaux, il y a des complicités au niveau de la province du Katanga, il y a des complicités au niveau du pouvoir central, mais au détriment de la population, j'insiste, merci, que nous avons 314 000 Congolais qui sont en errance au niveau de la province du Katanga. Que dire de l'est du pays?
Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique, vous avez suivi une partie de l'intervention de Maître Mbouyou, vous venez de suivre l'honorable Fabien Mouton, pour qui il y aurait des manipulations, il y a plus de 300 déplacés déjà. L'une des causes qui a déclenché cette situation serait notamment l'évasion de Gédéon quelques mois des élections de 2011. Comment vous analysez cette situation?
Bien, merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Je crois que il y a d'abord une sorte de persistance d'un malaise social assez profond et un mal réel qui, de l'intérieur comme de l'extérieur de la République, ronge le pays. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement, c'est qu'il y a une sorte de frustration, une sorte de désespoir qui accouche généralement de nouvelles radicalités, c'est-à-dire toutes ces nouvelles revendications qui sont menées généralement par tous ces sans-emploi, tous ces sans-salaires, les victimes de l'injustice, le déséquilibre du développement au niveau des provinces. Donc, nous pouvons dire ici que non seulement Maître Mbuyu a raison dans ce qu'il a avancé comme argument, mais il faut dire aussi que l'honorable Fabien a aussi complètement raison. Le problème de l'Est, j'ai devant moi ici la carte, je vois de la province orientale, et c'est pratiquement jusqu'à l'espace occupé par Gédéon, où l'espace où Gédéon est en train de sévir à l'est, au nord-est, n'est-ce pas, du Katanga. C'est-à-dire que tout ce qui est comme politique des commanditaires de la déstabilisation de la République de l'Est de la République démocratique du Congo est valable aussi pour le nord-est de la province du Katanga. Parce que nous sommes dans le même couloir. Voyez-vous, c'est dans le même couloir. Je vois ici le lac Tanganyika et quelque peu plus tard, si vous descendez un tout petit peu, vous avez le lac Mwero. Donc, et c'est dans cette partie justement que sévit aussi Gédéon. Je crois que c'est le prolongement de la même bande de l'Est qui est victime de la manipulation et de la complicité à l'intérieur et à l'extérieur de la République. Là, je crois qu'en termes généraux. Mais si on voudrait entrer dans le fond, cela démontre aussi et cache que tous ces conflits identitaires cachent un certain malaise. Et là, je suis d'accord avec l'honorable quand il dit que ce n'est pas un hasard de voir les paysans se mettre debout, donner leur vie pour chercher, si vous voulez, un État autonome du Katanga et tout ça. Je crois sûrement, et ça c'est vrai, si je reviens dans l'histoire du Katanga à partir des années 90, je crois qu'on a déjà planté les germes de cette milice qui sévit aujourd'hui dans le nord-est du Katanga. Avec tout ce qu'il y a eu avec les milices de Kyungwa Kumwanza et tout ça, il a préparé les gens, peut-être sans le savoir, à ce qui est devenu aujourd'hui une instabilité notoire au niveau du nord-est du Katanga. Ça, c'est la première lecture. L'autre lecture, c'est que le nord du Katanga, c'est un espace qui est inexploité et qui est vraiment pauvre, voyez-vous, et qui a été victime, n'est-ce pas, de cette injustice au niveau de la gestion, n'est-ce pas, de la province. Vous avez le sud qui est assez développé, tandis que le nord, c'est dans cet espace où vous avez pratiquement les anciennes installations de KTB et où l'actuel gouverneur a essayé de travailler un tout petit peu dans les villages, parce que je vois le secteur Kasenga, Pueto. C'est un coin que je connais très bien d'ailleurs, pour y avoir exploité. Et effectivement, je crois qu'il y a ce déséquilibre-là qui crée aussi, n'est-ce pas, toutes ces revendications identitaires qui se cachent derrière des conflits sérieux, n'est-ce pas. Moi, je crois que il y a le gouvernement qui doit devoir opérer un processus de développement au niveau local, de manière à incorporer tout cet ensemble, n'est-ce pas, des milices dans des structures économiques, de manière à ce que, n'est-ce pas, ces guerres prennent fin.
Voilà, cet aspect-là, nous l'aborderons dans la deuxième partie concernant les solutions. J'ai sous les yeux, Joseph Kongolo, la déclaration des députés nationaux et notabilités du district du Haut-Katanga en rapport avec la situation sécuritaire et humanitaire du district. C'est la déclaration qu'ils ont déposée auprès du ministre de l'Intérieur le lundi 14 janvier dernier. Juste un extrait, ils disent dénoncer le silence opaque qui entoure la situation sécuritaire et humanitaire, particulièrement dans les territoires que nous avons cités ici. Y aurait-il, je sais pas, nonchalance ou un peu retard dans l'action du gouvernement?
Bon, retard, moi je crois plutôt que c'est pas un retard en fait, mais c'est comme une sorte de nonchalance, parce que Gédéon, c'est pas aujourd'hui qu'il sévit à l'Est. Il était dans le secteur de Mitoaba et il a sévi là-bas. Il y a eu beaucoup de déplacés de guerre. Je connais, j'ai un ami qui était administrateur du territoire, qui a dû fuir, qui a dû presque démissionner, si vous voulez, à cause de cette instabilité. Et c'est pas aujourd'hui. L'honorable vient de dire tout à l'heure qu'il a été arrêté en 2011, avant les élections, mais qui l'a fait évader? Donc, je crois qu'il n'y a rien pour rien dans le pays. Il n'y a rien pour rien. Quand il y a des groupes qui réclament quelque chose, qui ont des armes, qui vivent au jour le jour sous le dos des populations, forcément, il y a des gens derrière. Et je crois toujours que ce sont des épiphénomènes pour moi qui peuvent trouver solution s'il y a de la volonté de l'engagement.
Maître Jean Bouillou, de votre point de vue, selon votre analyse, y aurait-il des manipulations quelque part?
Ce qui est le plus manifeste sur le terrain, c'est un discours passéiste, notamment le discours de 1960. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a une contradiction profonde. En 1960, lorsque Tshombe proclame l'indépendance du Katanga, ce sont les Baluba, au travers de la Baluba 4, qui se sont opposés à cette indépendance et qui ont fait la guerre, notamment les Sendwe qui étaient nationalistes. Aujourd'hui, ce sont les Baluba 4, parce que la plupart de ces milices, de ces rebelles dont on parle, sont de la tribu Baluba 4, qui revendiquent l'entièreté du Katanga et non pas, ils ne s'opposent pas à la sécession. Donc il y a quand même une mutation. Et c'est pour ça que je m'oppose à l'idée que d'aligner d'une manière linéaire ce qui se passe en province orientale, ce qui se passe dans le nord du sud Kivu et ce qui se passe au Katanga. C'est pas du tout la même chose. Et j'insiste sur le fait que lorsqu'on a pris en compte dans les négociations antérieures les revendications des Maïmaï du nord Kivu, du sud Kivu, de la province orientale, et qu'on a laissé tomber les revendications, ou du moins on a donné aucune place, aucune ouverture politique au Maïmaï du Katanga, cela a été frustrant. Et c'est dans ce groupe qu'on trouve aujourd'hui des gens qui se rebellent contre l'autorité de l'État. Et leur rébellion, bizarrement, n'a pas d'idéologie. Et pour s'accrocher à une idée, ils disent « nous voulons le Katanga ». Alors que la constitution actuelle, justement, a déjà divisé ce Katanga en différentes provinces qui correspondent plus ou moins au district. Donc la revendication aujourd'hui de ces groupes, à mon avis, je pourrais dire que c'est une revendication de soutien pour justifier leur banditisme.
Alors, mettons Bouillou, Joseph Kongolo a parlé de la persistance d'un malaise social profond, un Katanga riche, un Katanga pauvre. Y aurait-il quelque chose dans ce sens parmi les causes?
Bon, si le malaise se situe au niveau du débat entre Katanga riche et Katanga pauvre, on devrait assister à une revendication des nordistes en vue probablement de demander une autonomie, ce qui n'est pas le cas. Ces nordistes revendiquent un Katanga entier, comme l'aurait revendiqué Moïse Tshombe. Alors que la Balubaka, traditionnellement, a revendiqué une division. On a parlé du Nord Katanga et de tout le reste. Donc il y a aujourd'hui une incohérence entre les revendications des années 60 et les revendications d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement disons, donner un contenu politique à la revendication actuelle de ces groupes, entre guillemets, Maïmaï, mais qu'on ne peut trouver d'explication que dans leur volonté d'être sur le terrain des maîtres pour continuer à vivre de la terreur et éviter qu'une autorité d'État s'impose.
Alors, l'honorable Fabien Moutombe a mis l'accent sur l'évasion spectaculaire de Gédéon à quelques mois des élections 2011. Comment vous analysez cet aspect?
Oui, cette évasion est toujours restée une question profonde. Comment cet homme a pu s'évader? Il a pu marcher 400, 500 kilomètres loin de la prison sans que l'armée ou la police les maîtrisait. Malheureusement, toutes les enquêtes qui ont été faites ont montré qu'il y a eu beaucoup de défaillances au niveau de la police et même...
Peut-on aller jusqu'à parler de complicité?
Pas du tout, je ne pense que c'était une complicité, mais c'était une peur que je qualifierais d'injustifiée, parce que les gens avaient peur du caractère mystique de cet homme. Il lui attribuait des pouvoirs invisibles. On disait que lui, c'était un homme qui avait des pouvoirs extraordinaires. Donc cette croyance traditionnelle a joué en sa faveur.
Honorable Fabien Moutombe, vous venez de suivre la réponse de Maître Mbouyou quant à l'aspect lié à Gédéon. Quelle est votre réaction?
Ma réaction, elle est simple. C'est-à-dire que le pouvoir de Kinshasa, je l'appelle pouvoir, je ne l'appelle pas majorité. C'est puisque c'est un pouvoir dont la légitimité pose problème à la date d'aujourd'hui. Ce pouvoir utilise les stratégies mobutiennes. Mais ce pouvoir a des difficultés pour encadrer ses stratégies. Parfois, ses stratégies se retournent contre lui. Mais moi, je vous confirme que l'évasion de Gédéon a été planifiée et préparée. Et s'agissant de la cause, vous voyez, j'ai l'impression que mon co-débatteur, il est en train de nager à vue, il n'arrive pas à pénétrer la problématique. Moi, je voudrais vous dire, ajouter encore d'autres éléments. Il y a les élections de 2011, il y a le problème lié à la décentralisation. Je vous ai dit que au mois de septembre 2011, Gédéon va s'évader, n'est-ce pas? Quelle a été la raison autour de ça? Les gens savaient très bien qu'aux élections présidentielles, c'est Tshisekedi qui allait gagner aux élections et qui a gagné aux élections. Alors, en créant l'évasion de Gédéon, c'était pour faire de telle sorte que si la confirmation de l'élection de Tshisekedi s'avère exacte, et ces gens entrent en rébellion, juste, j'évolue, monsieur le journaliste. Laissez-moi évoluer.
Allez-y.
Vous n'avez pas coupé l'autre.
Non, allez-y.
Laissez-moi évoluer.
Allez-y, okay, honorable.
C'était juste,
je ne fais que jouer mon rôle, honorable.
Ils ont préparé ça juste pour perturber la situation.
Alors, ces calculs, dont vous parlez, honorable, ne paraissent-ils pas surréalistes?
Permettez. Maintenant, deuxième aspect. Il y a la décentralisation. Je crois que l'indépendant, l'analyste Joseph Kongolo, a effleuré. C'est pour vous dire que la décentralisation pose problème au Katanga. À un moment donné, on a parlé du Katanga utile et du Katanga inutile. Alors, l'évasion des Gédéons et tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est juste pour perturber la décentralisation. Je voudrais tout simplement vous dire qu'on ne peut pas se cacher derrière un doigt. Et si vous voyez, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé à l'Équateur, par rapport à ce qui s'est passé à la province au Bas-Congo, l'intervention de l'État a été énergique. Mais ce qui se passe au Katanga, il y a ce qu'on appelle en bon français la conspiration du silence. Puisque l'État lui-même, au haut sommet, que ce soit au niveau de la province et au niveau de la capitale, les deux sont impliqués totalement jusqu'au cou.
Alors, que faut-il pour sécuriser cette partie du pays et mettre fin à l'activisme de ces groupes des combattants Mai Mai dans le Katanga? Le grand chef Msiri Debayeke pense qu'il y a deux pistes qui peuvent être explorées. On l'écoute au téléphone de Denise Maéo.
Il y a toujours deux voies. La première, c'est militaire, parce que d'abord, il faut les stopper, qu'ils sentent qu'il y a une force en face d'eux. Autrement, ils auront l'impression d'être permis à tout faire. Ils sentent que le gouvernement provincial et surtout national intervient dans les brefs délais, à travers nos PDC et les PNC, mais aussi, après, dialoguer avec eux, écouter ce qu'on peut récupérer, car c'est des jeunes gens désœuvrés qui n'ont pas d'avenir, qui ne voient pas où aller et qui s'enrôlent dans des histoires qui font la honte du Katanga et de la RDC.
Pour sa part, le caucus des députés provinciaux du district de Tanganyika plaide pour l'instauration d'un cadre de concertation pour traiter de la question de l'insécurité qui sévit dans les localités du Nord Katanga. Pour son président, il faut sensibiliser ces combattants et les rapprocher pour connaître leur véritable mobile. Parmi eux, indique l'honorable Benoît Mbayo, se trouvent ceux qui s'estiment abandonnés par le gouvernement après avoir résisté aux rebelles lors de la guerre d'agression. Toutefois, l'honorable Benoît Mbayo n'exclut pas le recours à la force en cas d'échec de négociation. Joseph Kongolo, en guise pour mettre fin à cette situation, vous parliez déjà d'une certaine intégration. Il faut intégrer économiquement ces jeunes qui sont pour la plupart désœuvrés.
Oui, le redressement est d'abord économique. C'est vraiment la première piste. Et en deuxième temps, je crois qu'il faut placer ces populations au cœur des stratégies de développement local. Ça, c'est une piste. L'autre chose, c'est que pour mettre fin à toutes ces instabilités au nord du Katanga, je crois qu'il y a des personnalités, des notables de la province. Parmi eux, il y a particulièrement le gouverneur, Moïse Katumbi. Il y a
le général Numbi, il y a Monsieur Kyungwa Kumwanza, l'actuel président de... Et puis, il y a Jeannette, je crois que c'est dans le secteur, son fief électoral. Ce sont les personnalités qui doivent figurer parmi les notables de la province pour pouvoir trouver solution à toute cette instabilité au nord du Katanga. Je crois que en dehors de...
Alors concrètement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce qu'il y a déjà le 16 janvier dernier un appel du gouverneur Moïse Katumbi à la jeunesse de cette contrée de se désolidariser des Maïmaï. En plus, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Joseph Kongolo, quand vous faites appel à ces notables?
Ce sont des notables qui sont écoutés, premièrement, par tous ces enfants, par tous ces jeunes qui se font enrôler, n'est-ce pas, dans les groupes de Maïmaï. Je crois que ces personnalités, évidemment, il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter, mais en dehors, parmi ces personnalités, le gouverneur ne peut pas manquer, le général Numbi, vous avez
donc
aussi...
Donc la liste est non exhaustive.
Kyungu,
concrètement, c'est... qu'est-ce qu'il devrait faire? Sensibiliser les jeunes?
Ils doivent créer un cas de concertation avec ces jeunes, un cas de concertation, et au cours de ces concertations, ils doivent appeler les uns et les autres, n'est-ce pas, à se mettre ensemble et à fumer le calumet de paix et voir dans quelle mesure on peut lancer le développement de la province du Nord Katanga.
Jean-Pierre de Manono au Katanga, comme solution, le gouvernement doit faire un suivi des moyens logistiques des militaires ainsi que leurs rations. Comment pouvez-vous comprendre que depuis que ces désordres ont commencé, aucun ministre ni du pouvoir central ni provincial n'a foulé ses pieds ici à Manono? Quelle désolation, Joseph Kongolo, ne faudrait-il pas que les autorités s'approchent également de cette population? L'honorable Fabien Moutombe a parlé de plus de 300 000 déplacés déjà.
J'adhère un tout petit peu à...
Exactement.
J'adhère un tout petit peu à ce que l'honorable disait tout à l'heure. C'est pas normal, n'est-ce pas, que au Bas-Congo, qui est une intervention énergique dans la province, dans l'Équateur, et qu'au Katanga, avec tous ces déplacements, 314 000 déplacés, et que le gouvernement central n'ait pas prévu un mécanisme ou encore ne puisse pas s'émouvoir dans le sens de mettre fin, n'est-ce pas, à toutes ces aventures des Maïmaï. Je crois franchement que le gouvernement doit aussi prendre ça au sérieux et arrêter des mécanismes pour pouvoir mettre fin, n'est-ce pas, à cette instabilité dans le nord du Katanga.
Je signale en même temps qu'il nous reste moins de 7 minutes pour terminer cette émission. Maître Jean Bouyou, parmi les solutions, quelles sont vos propositions? Joseph Kongolo est venu parler du redressement économique. Il faut placer la population de cette contrée au centre d'un développement. Il faut que les notabilités de cette partie se mobilisent pour créer un cadre de concertation, sensibiliser tous ces jeunes qui intègrent ces mouvements Maïmaï. Quelles sont vos propositions, vous qui habitez sur place
d'ailleurs? Oui, merci. D'abord, il faut réfuter de la manière la plus expresse les propos de l'honorable Fabien Moutombe sur cette affaire de stratégie mauboussienne, de naviguer à vue, de Tshisekedi qui a gagné les élections. Tout ça, c'est l'imaginaire qu'on connaît, surréaliste, comme vous l'avez dit, qui justement veut ramener tout à Tshisekedi. Non, il faut pas mettre ce conflit au nord du Katanga dans ce pactole d'une opposition radicale dont on connaît d'ailleurs l'échec. Les élections étaient gagnées par le président Joseph Kabila dans des conditions qu'on connaît tous. L'opposition a été décriée dès avant les élections parce qu'elle n'avait pas réussi à s'unir. Tshisekedi s'était déjà autoproclamé président de la République avant les élections. Tout ça est connu. Donc
Ceci étant dit, Maître Mbouillon, cela nous permet, votre réponse nous permet de refermer cette parenthèse. Quelles sont les solutions d'après vous?
Oui, il y a d'abord une chose réelle. Il faut renforcer l'armée et cela a des résultats pour le moment. L'armée et la police contre ces forces multiformes. Il n'y a pas d'autre voie s'il n'y a pas un renforcement de l'armée dans ces régions en vue de mettre fin à ces velléités rebelles. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec l'analyste Joseph. C'est Joseph?
Joseph Kongolo.
Kongolo. Sur la question de conflict resolution, il faut arriver à écouter ces jeunes gens, parler et à donner une issue à ces revendications qui datent de toute façon d'une dizaine d'années, notamment le manque de prise en compte de leur lutte lors de la libération ou de l'opposition à l'ennemi.
Une prime à la guerre, en quelque sorte.
En quelque sorte, oui. Puisqu'on l'a fait dans la province orientale, on l'a fait dans le nord et le sud Kivu, même dans le Maniema, mais eux se retrouvent en quelque sorte comme les ratés, les abandonnés, les oubliés de cette guerre, alors qu'ils ont lutté autant. Donc, je veux dire, un côté, il faut renforcer l'autorité de l'État, de l'autre côté, il faut dialoguer avec eux pour les récupérer, et enfin, il faut que, effectivement, que le plan de développement national concerne toutes les parties du pays en vue de prendre en compte également l'encadrement de cette jeunesse désœuvrée.
Honorable Fabien Moutombe, quelles sont les solutions pour vous?
Le problème du Katanga, on ne peut pas les résoudre de manière isolée. Le Katanga est à intégrer dans une structure générale que nous appelons la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, il s'est fait malheureusement, nous avons un leadership excessivement faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers des solutions globales et globalisantes. Il faut d'abord arrêter le banquet des buveurs de sang de Kampala. Il faut arrêter cette histoire, puisque je vous ai dit qu'il y avait 314 000 Congolais qui étaient en errance. Tshisekedi a toujours dit les peuples d'abord. Alors le peuple d'abord, arrêtez les banquets de Kampala. Premier problème. Deuxième problème, il faut organiser un dialogue national. Dialogue véritable où les différentes forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo vont se retrouver afin de traiter le problème qui concerne la République démocratique du Congo dont le Katanga fait partie. Quelles sont les thématiques qui seront traitées dans ces dialogues? Il y a la crise de légitimité consécutive aux élections de 2011. Il y a eu un hold-up électoral. Celui qui a gagné aux élections, c'est Monsieur Tshisekedi. Il faut régler ce problème. Premier point. Deuxième point. La faiblesse de nos forces armées, comme on l'a dit, nous devons analyser et trouver des perspectives en vue de résoudre cette question. L'engagement, la trahison du serment constitutionnel du président de la République qui doit assurer l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, il a échoué. Nous devons traiter de ces problèmes.
Et en guise conclusion,
en guise de conclusion, ce que je peux dire, si vous me demandez de chuter, revenons à la vérité. Revenons à la légitimité des urnes. En réhabilitant effectivement, c'est lui qui a gagné aux élections de 2011. Je citais Monsieur Étienne Tshisekedi à Mulumba.
Alors, Joseph Kongolo, comment vous analysez les propositions de Maître Mbuyu et de l'honorable Fabien Moutombe en guise de conclusion?
Oui, je suis d'abord contre la routinisation de modes de règlement de conflits armés de l'Est. C'est-à-dire que le modèle qui a été établi d'organiser le dialogue, d'intégrer tous ces brebis galeux et puis de l'intégrer dans l'armée, je crois que c'est pas une bonne solution. Je crois franchement qu'il faut peut-être insérer tout cela dans un dialogue, n'est-ce pas, dans lequel seront prises en compte pratiquement l'ensemble des revendications des différents groupes qui réclament l'identité.
Alors la vérité des urnes, tout ce dont parle l'honorable Moutombe, comment vous analysez ça?
Écoutez, ça c'est le discours de l'opposition, j'en prends acte. Je crois que dans le dialogue, tout pourra trouver une solution.
Maître Mbuyu, juste un mot pour terminer.
Pour terminer, il faut dire que le pays est gouverné et les rébellions existent parfois dans tous les pays et il appartient au gouvernement en place de mettre un dispositif pour contrer ces rébellions et ramener la paix.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.